avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, quatre mousquetaires, lui tout seul, Luc Ferry. Salut Luc, on parlait de cette affaire. Bonjour, de Guillaume. Consultation sur la fin de vie. Alors, dans cette affaire-là, j'allais dire, les problèmes de sémantique sont extrêmement importants parce que fin de vie, ça peut tout et rien de vouloir dire. Ça concerne des situations qui sont complètement différentes.
C'est ce que je viens de vous dire.
C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent faire ce choix à un âge très jeune pour des raisons psychologiques. D'autres qui peuvent faire ce choix, ou même les médecins peuvent le faire.
C'est ce que je viens de vous expliquer, Guillaume.
Et non, mais vous l'avez expliqué à... Enfin, d'abord, vous ne l'avez pas expliqué, mais j'étais au courant. Mais deuxièmement, il faut peut-être le dire publiquement. Parce
oui,
que les enjeux sont différents.
On confond deux choses. Voilà. Qu'on réfléchisse à adoucir la fin de vie de personnes qui sont en effet en fin de parcours, qui sont très malades, très vieilles, très malades, et qui sont en effet sur le point de mourir, et qu'on adoucisse les choses, que d'ailleurs permet tout à fait la loi Leonetti, que je trouve très bonne. Bien sûr, on peut
disons
peut-être
clairement,
la modifier.
Ça se fait actuellement à l'hôpital.
Mais ça se fait actuellement. Mais la loi Leonetti le permet. Et donc, la loi Leonetti laisse le permet. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Peut-être qu'on peut l'améliorer un peu à la marge pour éviter quelques situations un peu compliquées. Mais voilà, c'est tout à fait défendable. Oui. Qu'en revanche, on tue des gens qui sont malheureux, je trouve ça absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on tue, soit par euthanasie, ou qu'on aide à mourir par suicide assisté, des gens qui sont en pleine santé physique, mais qui sont simplement malheureux, qui sont dépressifs, je pense qu'une... Voilà, traiter le malheur par la mort est quelque chose d'absolument insupportable. Une société qui fait ça ne mérite pas de vivre. Et donc là-dessus, je pense qu'on confond deux choses complètement différentes quand on parle de fin de vie. Il y a des gens qui sont vraiment en fin de vie, qui souffrent atrocement, et dans ce cas-là, bien sûr qu'on adoucisse le remords est tout à fait compréhensible et légitime. Et puis il y a des personnes, c'est le cas en Suisse, moi j'ai travaillé avec le ministre des Affaires Sociales suisse, qui était lui-même scandalisé par sa propre loi, si je puis dire, parce que on venait de tuer, ou d'aider à se tuer, deux jeunes gens qui n'étaient absolument pas malades physiquement, et qui simplement étaient dépressifs. Mais c'est absolument scandaleux. On n'a pas le droit de traiter le malheur des gens par la mort. C'est pas la réponse, c'est pas la seule réponse. Moi, je termine avec ça, Guillaume, mais pardon, je le dis. Nous avons, Axel Kahn et moi, écrit un livre là-dessus. D'ailleurs, évidemment, on n'a pas été consulté par la convention en question, ça les intéresse pas du tout. Mais Axel, bah, bon, malheureusement, n'est plus là. Ouais. Mais j'aurais pu apporter son livre et dire ce qu'il avait dit. On peut le lire. Bon. Et donc, ce qu'il disait, à mon avis, à juste titre, et on peut pas dire que c'est quelqu'un qui connaît pas le sujet, parce que Dieu sait qu'il le connaît, mais il disait, voilà, la réponse qu'on doit apporter au malheur des gens, à la dépression, c'est pas la mort, c'est l'amour. Voilà. Et donc, je pense qu'une société qui accepte ça est une société qui est en perdition, tout simplement. Donc là, je suis en désaccord, mais complet, avec mes amis, André Comte-Sponville, avec Michel Onfray, enfin, voilà. Et je suis pas catholique, c'est pas le sujet, c'est encore une fois, je trouve que...
Donc vous êtes Houellebecquien, puisque nous avons ce texte de Houellebecq ce matin.
Oui, et je pense que là où Houellebecq a raison, c'est que avec ce suicide assisté ou cette euthanasie, il faut bien comprendre la différence entre les deux. L'euthanasie,
c'est les médecins ou c'est le malade lui-même.
Il y a énormément de médecins qui veulent pas administrer la mort, qui disent c'est pas notre métier. Bon, le serment d'Hippocrate nous conduit pas à ça. Bon, suicide assisté, il y a des pays dans lesquels on vous donne le petit paquet pour aller vous suicider vous-même. Et donc dans les deux cas, ce qu'on va envoyer comme message aux vieux qui vont rentrer à l'hôpital, c'est vous êtes vieux, vous êtes moche, personne ne vous aide. En plus, on est là à s'occuper de vous toute la journée, vous nous cassez les pieds, vous feriez mieux de disparaître. C'est ça qu'on va envoyer comme message. C'est un scandale. Voilà. Et donc, je trouve que les gens ne réfléchissent pas assez au message qu'on envoie dans une société qui, encore une fois, confond fin de vie et fin de vie. C'est-à-dire, la vraie fin de vie, c'est quand les gens sont mourants. Et puis, fin de vie, c'est si des gens veulent se suicider, mais qui se suicident. Alors, on évoque toujours le cas de Vincent Humbert, mais enfin, c'est un cas sur 10 millions. On va pas faire une loi.
Mais est-ce qu'il y a vraiment
ce type
beaucoup
de cas,
gens,
c'est absurde.
Il se trouve que, par exemple, dans ma famille, il est arrivé quelqu'un partant en Suisse après, donc, une récidive de cancer. Il avait 50 ans et il ne voulait plus.
Oui, dans la mienne aussi, même chose.
Voilà. Donc, là, c'est assez compréhensible.
Mais bien sûr, c'est ce que je dis, bien sûr. Moi, je vais pas dire quelle est la personne, mais qui avait un cancer du poumon en phase terminale et qui allait mourir dans les 48 heures. Et évidemment, son fils, qui était médecin, a ouvert les vannes. Oui. Et c'est parfaitement compréhensible et c'est parfaitement légitime.
Mais il y a vraiment beaucoup de dépressifs qui réclament ça.
Mais bien sûr, énormément. Et donc, il faut ne pas connaître du tout le sujet pour ne pas le savoir. C'est pour ça que j'avais travaillé avec le ministre des Affaires Sociales en Suisse, c'est à sa demande, évidemment. Il m'avait dit, mais on a de plus en plus de demandes de ce qu'on appelle en Suisse les fatigués de la vie. Voilà, des gens qui sont en pleine santé physique, mais qui demandent à quitter ce monde parce qu'ils sont malheureux, tout simplement, parce qu'ils sont tout seuls, parce que personne ne les aide.
Et ça, la loi
l'autorise. L'autorise, à 100%.
Oui, mais c'est là où, justement, parce que la décision de Macron n'est pas définitive, c'est là où peut-être...
Ah non, mais ça, je ne parle pas de la décision de Macron, elle n'est pas prise, mais je parle de la loi suisse, de la loi belge, de la loi québécoise. Et donc, j'en parlais avec un médecin qui est chef de service des soins palliatifs dans un grand hôpital parisien, qui est venu me voir à la maison, à sa demande d'ailleurs, l'autre jour, et il m'a dit, mais les gens ne comprennent pas, quand on s'occupe dans les soins palliatifs de personnes qui sont, entre guillemets, fatiguées de la vie, très souvent, quand on leur a expliqué qu'on serait là jusqu'au bout, qu'on s'occuperait d'eux, qu'on les laissera pas tomber. Mais évidemment, des gens qui arrivent en disant « mais je veux en finir, soyez gentils, donnez-moi la potion létale, je n'en peux plus », puis on parle avec eux, puis au bout de 48 heures, ils disent « bah écoutez, non, si vous vraiment vous me promettez que vous allez vous occuper de moi, je veux pas partir, donc dans ce cas-là, je reste avec vous, mais vous me promettez que vous allez pas me lâcher », voilà, c'est ça qu'on entend. Mmh. Et donc je trouve, franchement, en plus, aller demander à une convention citoyenne, enfin tout ça n'a aucun sens, c'est grotesque. Et donc, qui ont-ils entendu? Alors, dans la Convention climat, par exemple, ils n'ont entendu quasiment à 99% que des théoriciens de la décroissance. Bon, là, qui ont-ils entendu? En tout cas, pas, on n'a pas parlé du livre que d'Axel Kahn, par exemple. Bon. Et donc, je trouve vraiment que là...
De toute façon, la décision finale va appartenir au président de la République, donc il a les éléments.
J'espère quand même qu'il y a un Parlement en France. Oui, bon, il n'y a pas que le président de la République.
Il y aura un projet.
La monarchie républicaine, ça commence à bien faire. Bon. Oui.
Et donc, pourtant, il y a quelques instants, vous venez de dire, je fais un sujet de transition, que vous étiez en désaccord total avec Jacques Julliard sur l'idée qu'on était en train de revenir à des bricolages type 4e République.
Oui, je voulais pas. Oui, en désaccord total, parce que je pense que il y a des gens qui raisonnent encore comme s'il y avait deux blocs en France, comme s'il y avait la droite et la gauche. Et dans ce cas, moi, en tant que gaulliste, j'ai toujours défendu le scrutin majoritaire. Bon, il y avait deux blocs quand j'étais gamin, quand nous étions jeunes, mon cher Guillaume. Il y avait la droite d'un côté, la gauche de l'autre, et puis on était pour le scrutin majoritaire. Aujourd'hui, comme je ne cesse de le dire, il y a 6 courants politiques à peu près équivalents en France. Donc il y a ce qui reste de la droite républicaine, ce qui reste du Parti socialiste, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il y a les écologistes et il y a le centre. Quand vous avez un pays qui est à ce point éclaté, il faut prendre comme modèle le modèle allemand.
Et ça, vous le répétez tout le temps.
Mais évidemment. Et donc, c'est pas le modèle allemand.
Mais Jacques, vous répondre, nous ne sommes pas les Allemands.
C'est d'une telle bêtise comme réponse.
Ah ben, ne dites pas ça à votre ami Jacques Frey.
Non, mais il va pas me répondre ça. Il est pas idiot.
Mais il a répondu.
Et donc, non, c'est absurde. C'est parce qu'il y a une génétique allemande et une génétique française.
J'ai jamais dit ça. Il y a une histoire politique. Les Anglais ne sont pas comme nous sur le plan politique.
Ah là là, c'est ça. Puis on va revenir à la génétique des peuples.
Mais non, j'ai jamais dit ça. À l'histoire politique.
Ne dites pas ça. Et donc, l'idée la suivante, c'est qu'on peut imiter, on a le droit d'imiter chez nos voisins ce qui fonctionne bien. Est-ce que l'Allemagne ressemble à la 4e République française? Réponse, non. Voilà. Donc, pourquoi ne pas imiter chez les voisins ce qui fonctionne admirablement? Je ne parle pas évidemment du nucléaire que l'Allemagne a fait le choix d'éliminer à cause des mouvements écologistes. C'est la grande erreur de Madame Merkel. Mais à part ça, le système allemand ne ressemble en rien à la 4e République. Et pourtant, c'est un système proportionnel. Mm-hmm. Pourquoi ne pas l'imiter? Et il est temps de le faire parce que, encore une fois, cet éclatement... Regardez, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On va où aujourd'hui ? Avec cette histoire de retraite qui est passée dans des conditions épouvantables avec le 49-3, maintenant, Emmanuel Macron est complètement bloqué, il n'a pas de majorité. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 ans qui viennent ? Vous trouvez le système formidable ? Gardons ce système et pas tant. Voilà, il est complètement bloqué, il est complètement en fin de course. Ah mais c'est formidable, sinon on revient à la 4e République, bien sûr. L'Allemagne, c'est la 4e République. Enfin, écoutez, c'est tellement bête.
Mon cher Luc Ferry, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique, votre radio.
Oui, mon cher
Ariège. Oui. C'est un petit département.
Oui, c'est un département
de gauche, oui. Classique.
Oui.
Donc,
Excellente nouvelle.
Effectivement, la candidate de la NUPES a échoué.
Oui.
Donc, est-ce qu'on est dans une phase qui serait, j'allais dire, une phase Cazeneuve.
Oui, surtout Carole Delga.
Est-ce que c'est une phase où la gauche classique, après la débâcle du quinquennat de François Hollande, va finir par reprendre une certaine forme de place politique, malgré des résultats épouvantables à la présidentielle, par rapport à la NUPES par rapport à LFI. Mais est-ce que vous le souhaitez?
Je le souhaite ardemment. Je le souhaite ardemment. De même que je suis très très heureux que la candidate de Carole Delga et de Cazeneuve, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas voulu, contrairement à Olivier Faure, s'aplatir devant Mélenchon, ait gagné cette élection. C'est une excellente nouvelle. J'aimerais que les LR se réveillent aussi et qu'on retrouve une opposition droite-gauche avec un socialisme démocratique et une droite républicaine. Oui, je pense que ça nous sortirait, mais on est loin d'y être, du débat entre un centre mou et une extrême droite dure. Voilà ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on est pour l'instant dans une situation catastrophique. Mmh. Et donc et d'ailleurs, si Marine Le Pen n'est pas élue, c'est un miracle aux prochaines élections. Donc oui, je pense que des gens comme Cazeneuve, comme Carole Delga sont des gens qui représentent ce que la gauche a de meilleur, comme d'ailleurs mon ami Jacques Julliard, même si on a ce désaccord sur la proportionnelle. Et je pense que la droite, malheureusement républicaine, est pour l'instant en train de couler, mais que peut-être qu'elle va se réveiller, on ne sait jamais. Un miracle est possible.
J'ai une dernière question pour vous.
Oui, mon ami.
Alexandre Dumas.
Oui.
Les Trois Mousquetaires. Oui. Le Comte de Monte Cristo.
Porthos.
Que des chefs
bisexuels.
Porthos, bisexuel. Ça vous
je suis contre.
Un petit extrait du film et de Martin Bourboulon. Allez-y, chers amis en régie, si vous l'avez.
Vous avez dit que vous n'étiez que trois. Il me semble à moi que nous sommes quatre.
Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère.
Eh bien, messieurs, vous décidez-vous à vous décider.
Tous pour un! Un pour tous!
On est dans les banlieues, quoi. Voilà un petit extrait très léger qui ne donne pas du tout l'idée générale de ce film très réussi, donc, de Martin Bourboulon.
Oui,
Dumas.
Il parle comme les copains de mes filles, mais bon.
Mais et Dumas, quand vous étiez Jones.
Oui. Non, moi non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Dumas, mais c'est pas ce que je lisais quand j'étais gamin. Non, c'est pas ça que je lisais. Non, j'ai lu.
Vous n'avez pas lu Les Trois Mousquetaires quand vous étiez enfant?
Non, pas du tout. Non, ça m'intéresse absolument pas.
Vous lisez quoi, Pete Gadget,
Non.
Kant déjà.
Oui, très tôt. Oui, c'est vrai. J'ai commencé. Oui, quand. Ça dépend. Vous avez lu ça à quel âge, vous?
Moi, j'avais 12 ans.
Oui, c'est ça. Non, quand j'avais 12 ans, je lisais San Antonio.
Ah, d'accord.
Qui me faisait mais pleurer de rire. Voilà.
San Antonio.
Berruyer en fait, chez les Gaunes, à Lyon, ça, je pleurais de rire. Et puis, à 15 ans, je lisais La critique de la raison pure, mon pauvre. Déjà,
ah,
j'étais
oui.
Atrocement sérieux.
8h57, nous étions avec Luc Ferry. Je vous rappelle que vous avez aussi comme deuxième événement culturel de la semaine Marole Basquiat, donc à la Fondation Vuitton. On en parlera évidemment avec toute la rédaction de Radio Classique dans les matinales qui suivent. Place à la musique et surtout l'histoire.